France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique. Je reçois aujourd'hui un musicien, je sais pas comment dire d'autre, ça a l'air vague, mais il en fait tellement avec son chœur, l'écrit de Paris. Il y a de l'opéra, du grand chœur, du petit chœur, de la Renaissance, du romantique, du moderne. Ils font de tout. Comment réussir cette variété en étant ouvert sur le monde en plus? Jusqu'à 13h, nous sommes avec Geoffroy Jourdain.
Thank you.
Kerry Elayson qui ouvre la Missa Sacra de Robert Schumann, enregistrement des Cris de Paris de Geoffroy Jourdain, il y a quelques années. Bonjour Geoffroy.
Bonjour.
C'est un beau disque que vous nous donniez à l'occasion. C'est vrai, je m'étonne toujours avec les Cris de Paris, la variété du répertoire. On va en avoir une des illustrations dans cette émission. Vous remontez haut dans le temps, quasiment jusqu'à nous à la création, et vous descendez très très bas hein, aussi dans l'histoire de la musique.
Oui, cette année, on aura fait du Josquin des Prés à Musica, enfin cette saison à Musica à Strasbourg et du Francesco Filidei également. Donc,
ouais. Ça demande quand même beaucoup de plasticité, à la fois pour le chef d'orchestre, enfin vous en l'espèce, et puis pour les chanteurs aussi, non ?
Certes, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'en même temps, c'est le travail qu'on fait sur un répertoire nourrit l'appétence, comme on dit souvent aujourd'hui, pour un autre répertoire. Et finalement, bon, c'est assez courant de dire ça, mais c'est vrai que, en réalité, il me semble que toutes les époques sont contemporaines à partir du moment où on les appréhende et où on les apprécie en même temps. Enfin, dans notre tête, tout est contemporain.
Elles sont contemporaines de nous, en tout cas.
Voilà. Ouais. Donc, la question, c'est de pouvoir leur, je suis toujours assez curieux de voir que finalement on va d'un répertoire à un autre sans que ça, en se laissant un peu guider par je dis pas les envies du moment, mais simplement les choses qui font sens pour nous dans les rapprochements de répertoires, les rencontres qu'on fait avec des metteurs en scène, des plasticiens, des chorégraphes.
Et des metteurs en scène d'opéra, puisque ce qui fait le succès aussi, enfin ce qui marque souvent, témoigne du succès d'un ensemble, c'est que non seulement l'ensemble vocal est a cappella, mais qu'il va aussi sur les planches de l'opéra. Vous y êtes allé pas mal ces dernières années. Hein
oui. Alors à la fois avec des projets portés directement par les Cris de Paris ou alors en tant que chœur invité, comme c'est le cas en ce moment à l'Opéra Comique avec les Mousquetaires au Couvent.
Mousquetaires au Couvent, la dernière ce sera donc demain mardi, si j'ai bien noté cela. Ça. Vous êtes présent à chaque fois, vous Geoffroy Jourdain, vous préparez juste le chœur à la
Non, fois. Si j'avais pu, je l'aurais été, mais c'est vrai qu'on c'est un mois de juin très particulier. Mais
Pourquoi
en tout cas, j'essaie... Parce que j'ai beaucoup de travail à la fois pour les projets d'écrit actuels. On aura eu trois projets très différents rien que pour le mois de juin. Et puis on en parlera peut-être, mais avec Olivier Michel, l'administrateur d'écrit de Paris, on reprend la direction de la Péniche Opéra et ça demande beaucoup de travail pour préparer la saison la saison prochaine qui sera notre première saison.
Alors pour faire autant de programmes justement, est-ce que vous avez un seul chœur, enfin une sorte de noyau sur lequel vous rajoutez des chanteurs de temps en temps, ou alors vous avez, je sais pas, plusieurs chœurs qui tourneraient par exemple?
Ah non, pas plusieurs chœurs qui tourneraient, mais c'est vrai que à la faveur peut-être aussi de rencontres et de propositions différentes, je vois bien que les Cris de Paris ne sont plus le chœur de chambre terme avec lequel on définissait notre projet artistique il y a maintenant une dizaine d'années quand on a commencé à se professionnaliser. Aujourd'hui, il y a des projets qui tournent avec par exemple trois chanteuses seules sur scène qui s'inspirent de musique de tradition orale, et puis des projets de musique ancienne et puis des projets romantiques, et c'est pas nécessairement les mêmes personnes, à la fois pour des questions de je dirais de disponibilité, mais aussi d'affinité.
C'est ça,
peut dire que les Cris de Paris demeurent un ensemble de 24-30 personnes qui sont à qui je propose systématiquement tous les projets
et qui sont professionnels, donc c'est
bien
ça
sûr, ouais.
Professionnalisés dans l'ensemble.
Bien sûr.
Les Cris de Paris, alors petite actualité quand même, on va donner quelques dates dès l'ouverture de cette émission, même si on reviendra sur certaines choses. Israël en Égypte, ce sera à Beaune. Je me suis noté la date tout à l'heure, je vais me la retrouver tout
juillet.
De suite. Là voilà, le 11 juillet. Alors ce sera d'ailleurs pas seulement avec les Cris de Paris, mais tout un ensemble, l'Orchestre Les Siècles, que vous allez diriger à l'occasion. Ce qui veut dire, Geoffroy Jourdain, que c'est pas seulement le chœur maintenant pour vous, mais la direction d'orchestre aussi. Hein.
Oui,
vous
et
allez le dire depuis quelques temps déjà.
Oui, c'est arrivé dans des contextes différents, sur des répertoires différents, mais c'est vrai que c'est peut-être la première fois qu'on mutualise. Ben là, on entendait de toute façon la Missa Sacra qu'on entendait, c'était déjà le cas, mais
absolument.
C'était, en tout cas là, c'est la première fois qu'on mutualise autant des forces avec une structure comme les Siècles. La dernière fois que je me suis souvenu que la dernière fois que j'étais ici avec vous, François-Xavier Roth était là.
Ouais.
Et c'était pas la première fois qu'on collaborait ensemble, puisqu'il m'avait confié les solistes des Siècles pour le Paradis perdu de Théodore Dubois qu'on avait enregistré ensemble. Et voilà, c'est un, je l'espère en tout cas, un compagnonnage qui continue à avancer. Israël en Égypte, c'est un ouvrage auquel je pense depuis des années.
C'est vrai, pourquoi ?
Parce que c'est un peu une météorite dans la production de Handel, en ce sens qu'il y a 80% des deux heures de musique qui sont confiées au chœur. C'est un oratorio qui d'ailleurs a été un échec cuisant à la création. Parce que je crois qu'Handel tentait quelque chose de nouveau, enfin de confier finalement à la fois la narration, mais en même temps presque l'action au chœur. Et bon, évidemment, c'était pas des goûts de l'époque. On appréciait plus les airs de solistes. Voilà. Et j'ai toujours été fasciné par la façon dont cette œuvre est une somme de tous les langages dont Handel peut disposer à l'époque, et notamment un goût très particulier pour l'illustration, puisque la partie centrale, c'est l'illustration des 10 plaies d'Égypte. Mmh. Et il y a des passages d'orchestre complètement fascinants.
Ce sera donc Israël en Égypte le samedi 11 juillet à Beaune, à l'occasion du festival L'Écrit de Paris, l'Orchestre des siècles dirigé par vous, Geoffroy Jourdain. Tout répertoire, j'ai dit, particulier Renaissance, bien voici. La musique de Luigi Rossi, magnifique cette musique d'ailleurs, ici enregistrée par l'Écrit de Paris sous votre direction, Geoffroy Jourdain. Ce programme sorti il y a 2 ans, 3 ans chez Aparté sous le titre Memento Mori, où il était question évidemment de la mort, puis surtout de cette musique, j'ai dit Renaissance tout à l'heure, non, baroque, même si c'est le premier baroque, sublime d'ailleurs, vous me parliez de torsion en écoutant cet extrait-là.
Mais je trouve que c'est une musique assez étonnante parce qu'elle est, elle est, ce qui est en jeu c'est des choses assez nouvelles, donc on sent aussi que justement les choses ne sont pas complètement cadré, il y a des tentatives, je parlais de torsion, la harmonique, des endroits où on va, finalement ça va s'assagir, la musique romaine, là on est en 1610, 1620, et finalement...
Tout est permis à ce moment-là, parce qu'on cherche beaucoup...
En tout cas c'est très expérimental, à la fois sur le plan musical, mais d'ailleurs aussi sur le plan disons dramatique. Il faut s'imaginer que cette musique était chantée dans les oratoires qui étaient donc qui jouxtaient les églises et que c'est en italien, en langue vulgaire. Mmh. Et il y aura une trentaine d'années où ce sera autorisé. Et après justement une bulle, d'ailleurs c'est une bulle qui impose
papale ou pontificale.
Qu'à partir du moment où on est dans le cadre d'exercices spirituels, on doit utiliser le latin. C'est une illustration de ce que cette époque a justement d'un peu expérimental.
Et c'est beau les périodes de liberté toujours en musique. Hein, oui. Ça peut donner tout et n'importe quoi, mais...
Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une période passionnante. Ah. D'ailleurs, qu'on connaît peu, ce madrigal qui clôt une cantate morale est peut-être de Luigi Rossi, mais on ne sait même pas. J'avais recopié ça au Vatican il y a une vingtaine d'années.
Ah bon? Oui, oui. Ça n'existe pas en musique éditée ou non?
Non, pas à l'époque, parce que de toute façon, ça avait vocation à circuler dans un cercle finalement assez restreint.
D'accord.
Et puis, on en composait une à toutes les semaines saintes, et puis on passait à quelque chose d'autre l'année d'après. Et elle n'est même pas signée. Enfin, j'avais réuni plein de, je me souviens plus exactement, mais j'avais dû réunir plein de feuillets dans un seul gros volume, mais de mains différentes pour en repartant d'un livret. Par contre, le livret était édité, le poème était édité, j'avais pu recomposer cet oratorio.
Donc Luigi Rossi, c'est pas sûr du tout. Alors, en tout cas, la musique est sublime, donc autant la voir sous quelque nom que ce soit.
France Musique.
Vous écoutez le magazine à 12h17. Geoffroy Jourdain nous a fait un choix CD, ce qui n'est pas du jour, mais qui est, comme il le dit lui-même, de sa vie. Dire quelle est cette musique étrange, grand maître. En deux mots, Geoffroy Jourdain, vous connaissez ça bien.
Précisément cette musique, ce chant diphonique, je suis fasciné évidemment par la voix, mais j'y connais pas grand-chose. Ça vient de Russie, de République de Touva, ouais. Et je sais que c'est quelque chose qui est encore très vivace. Je peux pas dire grand-chose, si ce n'est évidemment si on le remet en arrière, qu'on le réécoute bien. Je trouve que c'est assez fascinant d'attirer l'attention de l'auditeur sur le fait que évidemment il y a un seul chanteur et qu'il y a au-delà de cette note fondamentale qu'on entend dans le grave, il y a toute une mélodie qui se développe au-dessus avec juste une formation de voyelles. Ouais.
Alors c'est extrait d'un coffret célèbre, Les Voix du Monde, une anthologie des expressions vocales parue au Chant du Monde il y a des années et des années. Comment ça se fait que vous soyez intéressé à ce répertoire-là, Geoffroy, et à quel moment de votre vie?
Ben, en tout cas, j'ai répondu un peu peut-être de biais à la question que vous me posiez de y a-t-il un disque que vous avez envie d'apporter dans l'émission. J'avoue que j'adore, lorsque j'allume France Musique, me dire que je vais découvrir quelque chose que je connais pas. Il s'avère que c'est un disque que j'ai découvert très tôt lorsque j'étais étudiant en Sorbonne avec, en l'occurrence dans les cours d'ethnomusicologie de Gilles Léoto, qui est d'ailleurs une des personnes qui a le plus participé à la collecte des enregistrements qui figurent sur ce disque et donc dédié à des pratiques vocales partout dans le monde.
C'est fantastique, Gilles Léoto, je l'ai comme professeur aussi, tous ceux qui sont passés entre ses mains, que ce soit en acoustique ou en ethnomusicologie, on regarde un souvenir émerveillé. Il y a de quoi, hein, c'était un... Enfin, je sais pas si c'est un professeur, un enseignant, je sais pas ce comment on dit à ce niveau-là, formidable.
Oui, je pense qu'il a changé la vie de pas mal de monde. Et j'avoue que ses cours d'ethnomusicologie, j'y suis retourné, moi, enfin, on devait y aller qu'une seule année, mais j'y suis allé 2 années de suite parce que c'était évidemment passionnant. Ça, en tant qu'étudiant, enfin, ce sera encore le cas aujourd'hui, mais c'est une façon d'ouvrir nos oreilles, certes, sur le monde, mais aussi sur la question, évidemment, de l'oralité, puisque nous, on est en prise en permanence avec l'écriture musicale. Et donc automatiquement on écoute les choses qu'à travers la façon dont on les note. J'entends les musiciens classiques. Et voilà, c'est évidemment, je pense, une des choses fondamentales que je suis heureux d'avoir découverte avec lui.
Un deuxième extrait proposé pour vous, là on part du côté de Bali. Un petit peu l'ethno, on évidemment repéré tout de suite que c'est du Ketchak. Ici, donc, à Bali, un chœur d'hommes à Ubud. Alors, moi, j'étais vu sur place, cela. Je suis ravi d'avoir eu, comme j'avais suivi des cours aussi, j'en ai suivi géographiquement certains. C'est pas votre cas, vous, Geoffroy Jourdain, mais quand même, vous avez fait du Ketchak vous-même.
Oui, j'ai eu cette chance. Enfin, j'ai rebondi sur une opportunité qui était offerte, je crois, par un dispositif lié à une association qui s'appelle Musique de l'Ébène, il y a quelques années, parce qu'on avait vu ça avec Marco Stropa, avec qui
Compositeur.
Et il avait écrit il était en train d'écrire un Ketchak pour l'écrit de Paris, enfin en tout D'accord. cas le mouvement d'une pièce qu'on redonnera bientôt d'ailleurs qui s'appelle Perché non riusciamo a vederla, et dans laquelle il avait prévu de composer un Ketchak. Il y avait un stage de Ketchak et on s'est inscrit tous les deux, on a passé 4 jours à essayer de faire quelque chose qui se rapprocherait de ce qu'on vient d'entendre.
Il faut dire, c'est fascinant déjà d'un point de vue sonore, et puis la cohésion que ça suppose dans tous les chanteurs ici, c'est incroyable. Pour un chœur, j'imagine, la chef de chœur, ça fait réfléchir.
Et oui, ce qui est assez fascinant et qu'on n'entend pas au final, mais c'est d'ailleurs assez, je trouve, représentatif de la pensée d'Asie du Sud-Est, c'est le fait que pour arriver à ce tout où finalement on entend cette scansion systématique de ta-ta-ta-ta-ta-ta, en réalité, chacun fait quelque chose de différent. C'est-à-dire que chaque personne participe à travers des formules rythmiques qui vont par exemple être, je sais pas, pam, papam, pam, papam, qui sont des cycles comme ça. Et en fait, c'est la façon dont tous les cycles de chaque individu s'emboîtent qui finit par créer ce grand tout. C'est effectivement fascinant à faire. Et après, on est porté aussi par le fait que ça peut paraître épuisant, mais en réalité, une fois que la machine est en route,
on doit être pris dans une forme de transe.
Hypnotique, oui, ouais,
c'est ça.
Bien sûr, ouais.
Un dernier extrait.
Bye.
écoute ce genre de musique à l'aveugle. On se dit quoi, l'air géographique, parfois c'est surprenant. Là quand même on se dit Afrique, et on y est, hein, Geoffroy Jourdain.
Oui, on est en Côte d'Ivoire. Ouais.
C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on entendait là, vous savez?
C'est un chant de divertissement, je trouve que c'est intéressant, de, en tout cas ce disque regorge notamment de choses, enfin j'allais dire de pièces, je sais pas si on doit dire ça, mais enfin en tout cas d'actions musicales dans lesquelles on voit comment dans la tradition orale de bien des pays, la musique peut prendre une place qui est celle qui est une place peut-être plus spontanée que celle, ouais, à laquelle nous on est habitué, qui est plus ritualisée, liée au concert, enfin avec tout un protocole qui effectivement nous met toujours en situation de un peu de, disons, d'écoute, enfin de distance par rapport à l'interprétation.
C'est ça. Ouais. Alors que là on entendait bien un cœur de femme, un cœur d'enfant, on est en Côte d'Ivoire, hein, ce que je trouve qui était vraiment, enfin, une sorte de dialogue comme ça.
Ce que je trouve très 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 émouvant, c'est que il y a dans cet enregistrement là par exemple, on est en 1965. Ouais. Donc on est aussi face à des choses qui ont eu lieu et qui nécessairement, parce qu'elles sont de tradition orale, nous questionnent sur la façon dont aujourd'hui ça a pu muter. On parlait tout à l'heure hors antenne des ketchaks qui finalement sont liés à une pratique musicale qui est finalement plutôt une réutilisation, enfin une revisitation d'un genre au XXe siècle.
C'est une recréation récente en fait.
Une recréation qui a été un peu remise au goût du jour dans les années 30. Et il y a aussi aujourd'hui beaucoup de choses, et d'ailleurs chez nous évidemment, de façon d'écouter la musique ou de l'interpréter qui sont des hybridations, c'est des ça. Réinventions constantes.
Il faut pas se tromper sur ce qui est authentique, c'est ça, hein, l'authentique c'est ce qui se transforme toujours.
Voilà, vous le dites mieux que moi, c'était ça que je voulais essayer d'exprimer en fait, c'est-à-dire la musique continue, qu'elle soit écrite ou pas, à être un phénomène vivant. On doit toujours abandonner quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau.
On va abandonner les musiques du monde, comme on les appelle, hein. Enfin, c'est une dénomination comme une autre. On va aller vers Théodore Dubois. Un extrait du Paradis perdu, ce drôle d'oratorio de Théodore Dubois. Enfin, je dis oratorio, c'était peut-être pas tout à fait le terme, mais ça ressemblait quand même un peu à ça, que vous nous avez rendu avec l'écrit de Paris, Geoffroy Jourdain, il y a quelques temps, et l'orchestre Les Siècles. Il est 12h30, on va pas oublier le questionnaire de Proust, il nous le faut absolument. Votre rêve de bonheur, Geoffroy?
J'ai répondu...
Vous avez répondu disposer du temps proportionnellement à l'importance que l'on donne aux choses.
C'est assez représentatif de l'état dans lequel je suis en ce moment. C'est-à-dire que j'aimerais que, idéalement, que faire les impôts, ça dure une minute, et puis pouvoir lire, avoir une heure par jour, et puis passer du temps avec mon fils la journée complète. Voilà. Non, mais c'est juste que, effectivement, avec.
Vous voulez dire que vous passez une journée pour les impôts et puis cinq minutes avec le fils?
J'ai pas tant de choses à raconter à mes impôts, mais je trouve que c'est difficile dans la vie de musicien, notamment de musicien, j'allais dire indépendant. Enfin, en tout cas, je m'occupe évidemment d'étudier des partitions, mais je m'occupe aussi de faire plein de choses pour l'écrit de Paris qui sont plus administratives. Et c'est vrai que c'est difficile de... Je fais tout ça parce que ma passion, c'est de faire de la musique avec les gens que j'aime, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui me prennent beaucoup de temps pour parvenir à un temps musical qui est moins important.
C'est ça. Qu'est-ce que vous voudriez être, à part musicien, bien sûr? Vous me répondez explorateur.
Oui, enfin, en tout cas, je sais pas si j'aimerais être autre chose que musicien, mais en tout cas, d'autres temps, d'autres lieux, oui, je crois qu'en tout cas, j'ai une... Peut-être que justement, ce que je fais en musique, c'est un petit peu ça, mais il y a un siècle, oui, je crois que j'aurais aimé être explorateur.
Vous seriez parti en Afrique, parce que géographiquement, vous savez qu'on n'explore plus rien, hein, c'est terminé. Hein.
Vous savez qu'il existe une société des explorateurs français.
Ah bon?
Ouais, qui est, bon, je crois qu'il y a encore des choses à explorer, mais qui sont peut-être plus du domaine directement de l'ethnologie, mais de la socio-ethnologie. Mais il y a toujours des choses à explorer. Et puis, en tout cas, c'est surtout une façon d'être au monde. Je sais pas, pour moi c'est un peu synonyme de liberté. Mais...
Votre héros dans la fiction, alors c'est pas mal la réponse, Monsieur Hulot.
Oui, c'est venu assez spontanément. Maintenant, c'est le fait d'avoir à l'expliquer, c'est compliqué. Non, au-delà des films de Tati que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le personnage de Monsieur Hulot. C'est quelqu'un pour lequel on a automatiquement de l'affection alors qu'on ne sait rien de lui. J'adore le fait que ce soit quelqu'un d'absolument secret et dont on admire le moindre geste, les moindres choses qu'il fait. Même parfois, malgré lui, ce qu'il apporte et ce qu'il véhicule, ça crée de la bienveillance.
Ouais, c'est un être au monde très particulier. Votre opéra préféré, alors là vous me faites une réponse, je ne sais pas comment, un opéra qui n'existe pas, qui est?
Oui, enfin c'est un clin d'œil à Vincent Dumez d'ailleurs, parce qu'il a répondu ça un jour, j'avais trouvé ça rigolo. Je dis l'Ariane de Monteverdi, qui est peut-être quelque part dans une bibliothèque cachée.
Et qui a priori a disparu, quoi.
Oui, voilà, je dis mon opéra préféré parce que sinon j'aurais répondu l'Orfeo, mais voilà, l'Ariane a été composée 3 ans plus tard, en 1610, et on a gardé que le fameux Lamento, mais normalement j'imagine 2 heures de musique autour, et j'avoue que...
On peut toujours espérer qu'elle ressorte un jour, cette musique.
Oui, moi je...
Enfin, y rêver.
À chaque fois que j'y pense, je me dis que ça va arriver, mais...
Sait-on jamais. On est allé chercher, enfin c'est Antoine et Raphaël qui sont allés chercher un petit concert d'écrit de Paris, parce qu'on voulait pas que des disques, et on est tombé sur une merveille de Hugo Wolf. C'était enregistré en 2012 à l'Auditorium du Louvre.
Thank you.
extrait des Chants sacrés de Hugo Wolf, c'était l'écrit de Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain, en concert le 25 novembre 2012 à l'Auditorium du Louvre, capté donc par France Musique. Écoutez ça tout à l'heure au bureau, vous disiez on peut pas ne pas diffuser ça, c'est une merveille. C'est quand même du beau répertoire à faire, Geoffroy, c'est pour ça aussi qu'on continue. Le répertoire de chœur est tout de même merveilleux parfois.
Oui, oui, certes, je ne cesse de le dire.
Je prêche à convaincu. Voilà. Je rappelle donc l'actualité principale pour l'écrit de Paris, ce sera avec l'Orchestre Les Siècles le 11 juillet au Festival de Beaune dans Israël en Égypte de Mendel, auquel Geoffroy nous l'a dit tout à l'heure, tient énormément. Programme 5.1 au Festival des Abbés de Lorraine et puis aussi à Vézelay que vous donnerez au courant du mois de juillet. C'est quoi 5.1? Ça fait beau d'ailleurs de ça.
Le 5.1, c'est le système de home cinéma. On a donné ce titre à ce programme parce que c'est, en fait, le public est immergé dans les chanteurs. En fait, on fait des œuvres où il n'y a pas de rapport frontal avec les chanteurs. L'œuvre emblématique.
Les chanteurs sont autour, c'est ça.
Les chanteurs sont autour. L'œuvre emblématique, c'est le Speminalium à 40 voix de Thomas Stalys.
Ah bah oui. Voilà. Alors, j'allais dire c'est de musique moderne, mais non, pas nécessairement. En fait, on a pensé la spatialisation du son.
Oui, bien sûr, oui. Et puis évidemment à Venise ensuite avec les doubles chœurs, les triples chœurs, et puis chutes, etc. Donc il y a d'ailleurs de la musique du XVIIe siècle et aussi la musique du XXe siècle, enfin du XXIe même, puisqu'il y a une création d'Aurélien Dumont.
Ça doit être déstabilisant un peu pour les chanteurs, comme de se retrouver dans une situation pareille, ou au contraire, non ?
C'est intéressant parce que c'est évidemment une autre façon de chanter, un autre rapport avec le public, mais par contre une concentration de chaque instant. En fait, je suis un peu caché du public et relayé par des écrans, enfin des prompteurs. Et évidemment, c'est une autre écoute, c'est une autre façon de se positionner dans la polyphonie, de convoquer un peu les sensations qu'on a eues en répétition. Et c'est vraiment un programme passionnant.
À suivre donc. Et puis ce disque aussi consacré à Vivaldi. Alors ça, c'est pas encore enregistré, c'est en cours. Hein.
Non, c'est un programme qu'on a beaucoup tourné depuis maintenant facilement 2 ans, 3 ans, puisqu'on avait créé, je crois, la Chaise Dieu, oui, il y a trois ans, consacré à des œuvres très connues de Vivaldi, comme le Gloria et le Magnificat, mais dont on sait qu'elles ont été écrites pour des jeunes filles, les jeunes filles de la Pietà, et pourtant on interprète toujours cette musique avec des voix d'hommes, parce que les partitions qui sont restées incluent des voix d'hommes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suppose que ça a été fait à l'époque pour que le compositeur et ses œuvres puissent être exportées, puisque évidemment c'était le seul endroit, ces orphelinats de jeunes filles à Venise où des femmes chantaient à l'église, dans toute la chrétienté, en fait, c'est l'inverse un peu de ce qui se passait ailleurs. Et il avait tout intérêt à être diffusé. Les jeunes filles qui faisaient de la musique tous les jours pouvaient elles-mêmes transposer les partitions.
Et donc vous êtes revenu une version avec jeunes filles seules, c'est ça ?
Voilà, c'est d'accord. Une proposition qu'on fait. Essaye de faire ce que les jeunes filles devaient très probablement savoir faire sans trop se poser de questions.
Et puis vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, Geoffroy, vous avez repris donc avec Olivier Michel la direction de la Péniche Opéra. Quand est-ce que ce sera vraiment sous votre première programmation ?
Notre première programmation, donc celle de 15-16, aura lieu en 16, au printemps 16. Et on la divulguera, je pense, à l'automne prochain. Maintenant, on y travaille. On est officiellement directeur de la Péniche Opéra depuis mars dernier.
D'accord, très bien. On suivra tout cela. Et puis une dernière chose, alors toute dernière vraiment, vous avez un appel à témoin à faire. C'était votre Madeleine du jour.
Oui, vous me demandiez une Madeleine et en réfléchissant, enfin, je me suis souvenu d'un événement. Je crois que j'ai vérifié, c'était en 89, la création du Soleil des Eaux, de la nouvelle version du Soleil des Eaux de Pierre Boulez. J'étais lycéen et j'étais allé. Il y a le visage nuptial et le Soleil des Eaux. C'est lequel sur le poème de René Char?
Les deux, je crois.
Il y a un Mallarmé. Non, c'est peut-être oui. Enfin bon, bref, dans une des deux œuvres, je crois que c'est le Soleil des Eaux. Donc, il y a un grand climax avec le chœur de femme qui chante sur les mots j'aime. Et j'étais au paradis, donc à Metz, ce qu'on appelle le paradis, c'est-à-dire derrière l'orchestre. Et sur un grand coup de timbale en même temps que ce climax des voix de femmes, un projecteur s'est brisé et puis il y a des petites paillettes qui sont descendues.
Sur j'aime.
Voilà. Quelques années plus tard, j'en ai parlé à Pierre Boulez qui m'a dit ne pas du tout se souvenir de cet événement. Donc je voulais savoir si j'avais rêvé parce que c'était magnifique. C'était un des premiers concerts de ma vie. Je voyais le maître diriger son œuvre. C'était la création. Enfin, peut-être que j'étais dans un état second et qu'en fait ça n'est jamais arrivé. Donc je me demande s'il y a des gens qui s'en souviennent.
Alors s'il y a des gens qui étaient à l'Arsenal de Metz en 89 pour ce concert Boulez et qui ont vu ou qui n'ont pas vu justement aussi le projecteur faire des paillettes, vous écrivez à l'émission, on transmettra à Geoffroy.
France Musique.
Il est 12h41. Bonjour Denis Pascal.
Bonjour Lionel.
Vous êtes venu nous faire une petite visite en fin d'émission pour nous parler de votre festival à Albi. Et vous avez amené de la musique et je crois que la surprise va être grande, alors j'en dis pas plus.
Guillaume, médecin,
sur Hélène Delaveau qui chantait ici cette histoire de guillotine choisie par vous, Denis Pascal, pour parler donc de ce festival Ton Voisin qui se déroulera du 1er au 4 juillet. C'est la 9e édition. Vous en êtes le directeur artistique depuis l'origine, en 2007. Hein, vous avez fondé ça pour quelle raison d'ailleurs? Alors, d'abord vous aviez envie?
D'abord parce que je suis albigeois, je suis né à Albi, que cette ville a connu un grand festival dans les années 70-80, que ça s'est arrêté, et que j'ai toujours eu la volonté de... Parce que la musique classique, le concert vivant et tout ça soit présent dans cette ville. Voilà, la ville a beaucoup évolué. C'est une ville magnifique maintenant, avec un patrimoine architectural extraordinaire. Évidemment, la cathédrale, le palais de la Berbie, le musée de Toulouse-Lautrec. Et depuis 9 ans, on poursuit cette aventure. Et c'est vrai qu'on a... On a beaucoup de bonheur à le faire et ça tient.
Alors, musique, pouvoir et liberté, ce sera le thème de cette édition 2015. J'ai l'impression qu'on est très... Déjà, le thème était lancé avec Hélène Delaveau ici, révolutionnaire. Hein.
Alors, révolutionnaire, pas que révolutionnaire. Enfin, le 2 juillet sera consacré à la Révolution française, à la musique des Lumières. Mais c'est vrai qu'il y a tout un trajet tout le long de cette semaine autour de plusieurs époques de l'histoire de la musique. Tout d'abord, le 1er juillet, on ouvre sur Prokofiev, Shostakovich et les années 40-50 en URSS et leur relation avec les censeurs comme Zhdanov. Le 2 juillet, effectivement, Hélène sera là, il y aura des chants, il y aura une petite chorale d'ailleurs de jeunes enfants qui feront des hymnes révolutionnaires. Hélène sera là aussi pour nous convier à beaucoup de chansons pamphlétaires sur d'ailleurs la Pompadour, l'ancien régime, et aussi au moment de la Révolution. Le lendemain, d'une manière incontournable, nous traitons du Troisième Reich et de la musique, et aussi de la montée des fascismes en Europe à partir de l'Espagne.
Oui, donc c'est vraiment toutes les périodes, à chaque fois que la musique a été en lien forcé, en général, avec le pouvoir. Hein.
Forcé, oui. Ça reste un festival, donc ça va... Oui, c'est pas trop triste.
Vous dites que nous traitons d'eux, c'est pas dire qu'il y aura nécessairement des conférences, des choses comme ça. Non. C'est vraiment évoqué, en fait, ces problèmes-là.
Pas du tout.
Ces questions-là à travers la musique.
Tous les concerts sont, en fait, je dirais presque doublés ou accompagnés de textes. Non pas des textes didactiques uniquement. Mais en tout cas, il y aura une espèce de chœur antique fait par deux acteurs qui vont nous suivre tout le long du festival, Régis Goudot et Renan Carteau, avec qui j'ai déjà travaillé au festival à Lille. Et disons que la musique va rebondir un petit peu sur ces textes, c'est-à-dire une mise en perspective de tout le programme.
Deuxième extrait musical, si vous voulez, avant qu'on y revienne, Denis Pascal. C'est un Schubert que vous avez choisi pour qu'on vous entende, vous, parce qu'on n'oublie pas que vous êtes avant tout pianiste. Hein.
Absolument. Thank you.
Le cinquième moment musical de Franz Schubert était joué par Denis Pascal, qui dirige donc ce festival Ton Voisin à Albi, dans le Tarn. N'est-il besoin de le préciser, festival qui se déroulera du 1er au 4 juillet, 4 jours, mais beaucoup plus de manifestations, parce que parfois, je vois le samedi, il y a 2, 3 concerts dans la journée. Hein,
voire 4, oui, en effet, oui. L'idée, c'est faire un grand crescendo sur du mercredi au samedi, et c'est vrai qu'il y a à la fois des impromptus, des concerts gratuits dans la ville, mais quand même 4 grands rendez-vous dans la journée.
Vous dites un crescendo qui aboutit à quoi alors? Parce que normalement, il faut un climax, ce genre de choses.
Il y en aura un, je pense, oui, le soir au Grand Théâtre, au nouveau Grand Théâtre d'Albi, qui est magnifique. Nous accueillons la Filetta, puisqu'en fait, nous traitons aussi de la musique comme mémoire et résistance à l'oubli. Et donc, la Filetta et deux artistes arméniens, Raik Bartikian et Vardu Yeritsian, l'un artiste traditionnel, joueur de doudouk, et l'autre Varduhi, qui est pianiste classique en fait, mais aussi très très imprégné évidemment de son patrimoine national. Et ils seront là tous les deux, ils vont échanger avec la Filetta, comme souvent la Filetta fait des programmes comme ça un peu mixtes et mélangés.
Et voilà. Il y a toujours un thème en fait dans le festival Ton Voisin, ou c'est juste cette année que vous avez?
Non, il y a toujours un thème en fait. L'idée, c'est de servir du thème et du parcours un petit peu comme clé d'écoute pour convoquer un petit peu les personnes. Voilà, c'est jamais simple hein, de promouvoir à la fois un répertoire particulier ou des artistes ou même le festival. Donc il s'agissait de construire vraiment une armature suffisamment solide pour que les gens viennent aussi au festival finalement.
Parce que si on impose juste des artistes comme ça sans dire qu'il y a un sens entre eux finalement, c'est un peu...
Il y a un sens dans la limite où c'est des artistes plus ou moins en résidence pendant une semaine. Ouais. Et qui parcourent un petit peu, qui aident à ce parcours musical et historique. Moi je pense qu'en fait le rendez-vous se fait facilement si on convoque le public, la musique et aussi des problématiques qui les concernent directement, qui ne sont pas forcément musicales.
Et vous jouerez donc Denis Pascal plusieurs fois dans le festival, une fois ou deux, je ne sais plus.
Plus que ça, c'est mon rôle d'être là, en tant que directeur artistique, aussi faciliter un petit peu les programmes et ne pas trop infliger de problèmes à mes chers artistes invités. Mais enfin, il y aura d'autres pianistes, hein, David Lively, Mozart Basquité, Varduhi justement. Et beaucoup d'autres, enfin voilà, et dont Hélène Delavaux évidemment,
qui sera là bien sûr, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Festival Ton Voisin à Albi du 1er au 4 juillet, donc sous votre direction si on veut y passer, si on est albigeois ou si on est dans le coin. Vous avez autre projet à vous, Denis Pascal, je crois que vous sortez d'enregistrement là.
Oui, absolument. Dernier enregistrement, c'était donc suite à ce grand concert à Salgavo le 28 janvier dernier pour le centenaire de la création du trio de Ravel. Nous venons d'enregistrer le trio, les valses nobles sentimentales et le tombeau de Couperin. C'est un disque qui sortira chez La Musica, le label de Philippe Maillard, et qui fait suite à ce concert, concert du centenaire. Je pense qu'il sortira peut-être le 28 janvier 2016.
C'est ça qu'on a fêté le centenaire du trio de Ravel, là. Oui, vous étiez venu d'ailleurs dans l'émission, dans le magazine Live, pour nous en parler. C'était quand même assez émouvant de savoir que cette œuvre qu'on adore avait juste 100 ans. Savoir le jour même. Il faut quand même que ce soit un sacré tube pour qu'on arrive à marquer que cette œuvre-là a été composée tel jour. Je n'ai jamais souvenir d'une date pour Mozart ou pour Beethoven même.
Tel jour, tel lieu, en jour, en heure et en lieu, c'était...
Ah, parce que vous l'avez fait, c'est vrai, à Gavot,
c'est ça. Donc
voilà, très émouvant, il y avait du monde d'ailleurs.
Oui, c'était bourré à craquer.
Ah,
c'était
d'accord.
Un grand moment, moment d'émotion aussi. Mais c'est vrai que c'était... oui, c'est particulier. Hein. Voilà, on est rentré sur la scène comme ils sont rentrés pour...
C'est ça.
Comme Casella est rentré pour créer le trio. Voilà, c'était un beau souvenir.
On a mis nos pas dans les pas de nos aînés, véritablement.
Absolument.
Hein, au sens quasi géographique du terme. Un dernier extrait musical pour Albi, ce sera Mozart ou Bakhtiné que vous avez choisi dans une œuvre qu'elle jouera
Oui.
Ouais, c'est ça.
Oui,
hein.
Deuxième concerto de Shostakovich. Thank you.
L'Andante du deuxième concerto pour piano de Dmitri Shostakovitch était joué par Mouza Roubakité avec l'Orchestre symphonique de Lituanie. Cette émission était préparée par Raphaël Dor, réalisée par Antoine Courtin avec aujourd'hui Frédéric Potry et Thomas Bizot.